Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue. Alors c'est toujours l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Et on va parler du pastoralisme, effectivement, aujourd'hui. Alors pourquoi parle-t-on du pastoralisme? Alors là, l'idée, ça serait de faire toute une série d'émissions autour de ce sujet. Alors pourquoi? Parce que ces temps-ci, le collectif des Garrigues travaille activement sur ce sujet-là. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le pastoralisme? Le pastoralisme, c'est une sorte d'élevage, mais un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un élevage qui va se faire sur du parcours et du parcours en milieu semi-naturel. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'élevage dans des prairies, des parcelles délimitées, mais on va être vraiment sur un parcours sur différentes zones et notamment dans des zones semi-naturelles, des zones de garrigues. Donc le pastoralisme en zone méditerranéenne est très important, très ancien. Et du coup, dans les garrigues, c'est un sujet assez important. Assez important parce que tout simplement, l'histoire même des garrigues est liée à ce pastoralisme. Ce pastoralisme qui date, on va le voir, de plusieurs millénaires dans notre région et qui a subi une très très forte régression depuis un gros siècle. Et aujourd'hui, sa quasi-disparition dans notre région pose un certain nombre de questions autour de la gestion des incendies, la fermeture du milieu, des disparitions d'espèces méditerranéennes, etc., etc. Et le collectif des Garrigues a été un petit peu sollicité pour travailler sur ce sujet, en essayant de se dire, au XXIe siècle, y a-t-il un avenir pour le pastoralisme dans nos garrigues? Et donc, depuis cet automne-là, on travaille très activement là-dessus, avec des rencontres d'éleveurs, des rencontres de gens de la profession, mais aussi des rencontres d'autres personnes qui gravitent autour. Comme je disais tout à l'heure, ceux qui s'occupent de la gestion du risque incendie, ceux qui s'occupent de la biodiversité, etc. Et donc, on va essayer de rassembler un peu tous ces gens, de comprendre finement le sujet et de faire peut-être des propositions pour essayer de débloquer certains blocages actuels qui existent sur le pastoralisme. Alors, c'est un peu pour cette raison-là qu'on s'est dit, à l'émission sur Radio Escapade, on pourrait retransmettre un peu tout ce contenu qu'on est en train de récolter un peu partout dans les garrigues. Et donc ça va faire l'objet de toute une série d'émissions. Donc là, je vous propose pour les deux émissions du mois de novembre plutôt des cadrages pour bien comprendre un peu à la fois l'histoire du pastoralisme, à la fois qu'est-ce que c'est que des races anciennes de brebis chez nous, etc. Et puis, au cours de l'hiver, on ira interroger avec le micro des bergers, des gens qui vivent de ce métier-là, qui le regardent sous différents aspects. Alors, peut-être, en introduction, on peut parler de quelques chiffres. Quelques chiffres. En 1840, dans le département du Gard, il y avait 500 000 moutons. Donc 500 000 moutons, je ne sais pas si vous faites un peu une idée du nombre. À cette même époque, il y avait 400 000 habitants dans le département. Donc il y avait plus de moutons que d'habitants. Globalement, il y avait des moutons dans toutes les communes, et même plusieurs troupeaux par commune, certaines arrivant jusqu'à 8 ou 9 troupeaux dans la même commune. En 1840 toujours, 700 tonnes de laine étaient récoltées. Ça faisait travailler 3500 ouvriers dans les différentes manufactures. Donc on voit qu'il y avait vraiment toute une économie très forte autour du mouton, de la brebis. À la fin des années 2000, on est autour de 20 000 brebis. Donc on a divisé par plus de 20 le nombre de têtes de moutons sur le département. Et si on reste toujours sur notre comparaison avec le nombre d'habitants, on est à près de 700 000 habitants aujourd'hui dans le département. Donc on voit qu'on est plus du le rapport qu'il y avait au début du 19e siècle est complètement inversé. Et si on garde notre exemple de la laine, aujourd'hui la laine est quasiment jetée, elle n'est plus du tout utilisée sur nos territoires. Alors ça nous donne un peu un ordre de grandeur de cette quasi-disparition, on va dire, de l'élevage de moutons dans notre région. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on retrace un petit peu l'histoire du pastoralisme dans nos garrigues, du néolithique jusqu'à nos jours. On s'écoute une petite musique et on démarre là-dessus. Alors, comme on me le faisait remarquer, cette petite musique, c'est quand même Aretha Franklin, donc grande musique. Bon, mais revenons à nos moutons, du coup. On parlait justement de pastoralisme et de l'histoire du pastoralisme en garrigue. Alors, on va faire un petit bond en arrière, un grand bond, encore une fois. Je dis le mot petit un peu trop souvent, peut-être. Alors, si on part il y a 10 000 ans, on est à une phase où le climat va se stabiliser et être à peu près ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est fini les différentes successions d'aires glaciaires et interglaciaires. Le paysage va commencer à être ce qu'on connaît dans nos régions. Et c'est aussi le moment où il va y avoir des grandes modifications au niveau de la société des hommes sur nos territoires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qu'on appelle la révolution néolithique. Alors au début, ça a démarré plutôt en Méditerranée orientale, dans le Moyen-Orient, dans le fameux croissant fertile, entre la Palestine et l'Afghanistan. Dans cette région vont démarrer la maîtrise de la culture et la domestication de l'animal sauvage. Ces deux événements sont faits à peu près en même temps. Et il va y avoir notamment la domestication des mouflons, des ancêtres de nos moutons. Alors, on ne sait pas trop exactement comment ça s'est produit. Il y a plusieurs théories, hein, comme quoi c'était des chasseurs-cueilleurs qui se sont un peu spécialisés au niveau de la chasse du mouflon, qui suivaient les déplacements des troupeaux et petit à petit les ont domestiqués en même temps que le chien d'ailleurs, très très liés. Et cette domestication va amener petit à petit une sédentarisation. Alors, je dis bien petit à petit parce que ça a été très progressif. C'est-à-dire que la sédentarisation, au départ, elle était locale et temporaire. C'est-à-dire qu'on se posait à un endroit, on cultivait des petites zones, puis on repartait. Et c'était beaucoup le suivi du troupeau qui faisait ces mouvements-là. En Méditerranée occidentale, donc plutôt de notre côté, il semblerait que le mouton ait même précédé l'agriculture et même la poterie. L'élevage du mouton est très ancien. Alors, juste quelques citations à ce niveau-là. Donc, il y a des questions, hein. Est-ce que le mouton, c'est une espèce sauvage locale ayant subi la domestication sur place, dans notre coin? Ou est-ce que c'est un animal introduit à l'état domestique et provenant d'une ère orientale, donc ce que je vous disais, du Moyen-Orient, plus lointaine, où il serait venu petit à petit? On n'a pas encore des réponses très claires sur ça. Mais Jean Guilaine s'interroge. C'est précisément lorsque l'homme commence à circuler de façon sensible sur la Méditerranée, vers le 8e et le 7e millénaire avant notre ère, que le mouton apparaît de manière plus ou moins claire sur les terres occidentales. N'y aurait-il pas là une relation de cause à effet? Est-ce que, effectivement, le fait de circuler autour de la Méditerranée aurait amené petit à petit l'élevage du mouton tout autour de la Méditerranée. Et ce qu'on sait, c'est qu'en définitive, l'élevage du mouton paraît possible, en gros, dès 6000 ans avant Jésus-Christ, en Méditerranée occidentale. Donc, il faut à peu près imaginer, 6000 ans avant Jésus-Christ, les troupeaux qui arrivent dans le coin. Alors, on se réfère aussi à différentes sciences pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il y a une science qu'on appelle l'anthracologie. L'anthracologie, c'est l'étude des charbons de bois. Et donc, ils ont étudié les charbons de bois et ça nous permet de retracer un petit peu comment le paysage a pu être à différentes époques au travers des espèces que l'on arrive à identifier au niveau des charbons de bois. Ce que ça démontre, les études notamment de laboratoire de Montpellier ont travaillé sur ce sujet et ont montré qu'il y a eu un développement entre notamment 4500 ans et 3500 ans avant notre ère, un développement très important de ce qu'on appelle le brûlage à feu courant. Le brûlage à feu courant, c'est un brûlage on met le feu, en fait, sur des grandes zones, et ensuite, dessus, on va cultiver, on va mettre des moutons. Technique qui existe encore dans tout un tas de régions du monde, et qui va permettre d'avoir des grands espaces qui vont pouvoir être cultivés et sur lesquels on va pouvoir faire de l'élevage. Alors, il y a une civilisation, on appelle ça la civilisation chasséenne, qui va se spécialiser un petit peu sur cette technique-là. Donc, on est à 4500 ans avant Jésus-Christ. Et qui va vraiment faire que cette pratique de la culture et de l'élevage vont prendre une grande ampleur au niveau notamment géographique et au niveau de l'espace qui va être pris. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'on va considérer que le milieu va être très fortement modifié par le fait de l'homme. Et donc, c'est, on dit, un changement anthropique, on appelle ça un changement anthropique du milieu. Alors, il y a des espèces végétales qui sont indicatrices de ces mouvements-là. Par exemple, le buis. Le buis est une espèce qui a énormément progressé à ce moment-là. Et c'est parce qu'il y a eu cette action de l'homme, avec le feu notamment, sur les paysages de Gary, que tout un tas d'espèces vont pouvoir se développer, et notamment le buis. Et donc ça, c'est l'anthracologie qui nous permet de révéler cette phase-là très importante du développement, on va dire, du pastoralisme sur ces milieux-là. Alors on est encore à cette période-là sur une sédentarisation relative. C'est-à-dire que on est plus sédentarisé que les chasseurs-cueilleurs, mais on reste encore sur des mouvements importants parce que une fois qu'on a épuisé un endroit, eh ben on allait chercher un autre endroit. On est vraiment dans des logiques qui pouvaient marcher parce que la densité humaine était très faible. Il y avait très peu de gens et des espaces gigantesques. Mais petit à petit, ça va prendre de l'ampleur. Alors, il faut se dire que ça s'est fait sur 1000-2000 ans, quoi. Donc, ça a été très 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 long. Puis a suivi une autre civilisation qu'on appelle la civilisation fombuxienne. Alors fombuxienne, ça vient d'un mot d'une localité près de Villevieille dans le Gard, le site de Fombouis, qui a été le premier site qui a été fouillé par les archéologues et qui démontre un petit peu ce qui s'est passé après cette civilisation chasséenne des grands défricheurs. Il y a eu une civilisation vraiment de garrigues et une civilisation pastorale, complètement pastorale, mais qui, elle, va être aussi une civilisation qui va se construire des villages. Des villages dont on retrouve pas mal de traces. Hein. Il y a donc Fombouis, comme je vous disais, près de Villevieille, mais il y a aussi Cambous, très bien sauvegardé, du côté du plateau de Viol-en-Laval, dans l'Hérault. Et en fait, on va avoir là des villages qui vont se construire, des villages avec des techniques de pierre sèche. Et ces villages vont être construits vraiment dans des zones de garrigues. Et on a retrouvé, grâce à des ossements, etc., que l'élevage du mouton y avait une importance capitale. Alors, mouton, chèvre également. Mais là, on va avoir une civilisation plus développée qui va être aussi une civilisation d'artisans qui vont travailler le métal, le cuivre notamment, la poterie, etc., et qui va avoir une gestion, il commence à apparaître une gestion du milieu. C'est-à-dire qu'autant avant, on était vraiment, on met le feu, on s'installe, puis après on bouge dès que cette terre est épuisée. Là, on commence à avoir un début de gestion du milieu, avec des zones agricoles, des zones pastorales, de la forêt qui était utilisée, gérée pour récupérer le bois pour les fours, etc. Et donc ça a duré pendant encore 1500 ans qui ont suivi. Donc vous voyez que là, il y a tout un historique, on va dire, de l'évolution de l'homme en garrigue, très lié au pastoralisme, mais aussi très lié au feu. Donc si on pense aux origines de la garrigue, faut penser au feu et à la dent du mouton. Alors, on s'écoute une autre musique et puis on va revenir un peu sur en quoi qu'est-ce qu'on utilisait chez ce fameux mouton.
chocho lente, buen pa la mo. No flamba chocho lente, buen pa la mo. No flamba chocho lente, buen pa la mo. No pa, ingale.
C'était Baka Beyond, donc sur Radio Escapade. Alors, on est sur Escapade en Garrigue. On parlait des moutons dans nos garrigues à des époques anciennes. Alors, on peut se poser la question du mouton, quel intérêt il a ? Pourquoi on a élevé des moutons ? Et notamment dans nos régions de garrigues. Alors, on pense naturellement tout d'abord à la laine, à la viande, parfois au lait. Et pourtant, dans les garrigues, la principale utilisation, enfin le cœur, on va dire, de l'utilisation du mouton dans nos garrigues, c'était pour le fumier. Pour le fumier qu'on appelle le migou. Le migou, c'est le fumier de brebis. Et en fait, c'est que ce fumier était une pièce maîtresse, en fait, de l'économie des garrigues, puisqu'il était très important, puisqu'on est sur des zones, plutôt des terres ingrates, des terres très pauvres, sur lesquelles il fallait amender ces terres, et le troupeau avait ce rôle-là. Et donc, il faut bien se dire que, voilà, quand on pense troupeau dans les zones de garrigues, il faut se dire vraiment qu'il avait ce rôle agronomique, en fait, d'enrichissement des terres. C'était sa première vocation tout au long du temps. Il y a un ancien proverbe qui dit « qui a des brebis a du blé ». C'est-à-dire que grâce aux brebis, on peut faire pousser d'autres cultures. Alors, Il y a plusieurs systèmes qui se sont basés autour de cette utilisation du troupeau. Il y avait des systèmes vraiment autarciques qui ont perduré très longtemps, hein, certains jusqu'au 19e siècle dans certains coins de Garrigues, qui étaient très liés aux masses. En fait, ce qu'on appelle le masque, une grosse ferme, qui vient, donc le terme vient de Mansoum, donc c'est un héritage des Romains, de zones agricoles romaines. Et on va retrouver ça notamment sur les zones de plateau de Garrigues, donc plateau de Lucan, sur les zones plateau de Lortus, costes de Viol, costes de la Selle, etc., etc. Et on était dans un système quasiment autarcique où finalement on produisait un peu de tout. Justement, autour de cette zone-là, avec un système entre les zones boisées, les zones agricoles, les zones de parcours, et le troupeau faisait, en fait, un va-et-vient entre les zones agricoles et les zones de parcours, et aussi les zones boisées, où il amenait, justement, le migou pour fertiliser les sols et repartait. Donc, ce système autarcique a été très important sur certains gros domaines. On trouve aussi le même système à une échelle un peu plus large, un système communautaire, on va dire, à l'échelle des communautés villageoises, où là, c'était organisé, c'était pas simplement un domaine, mais c'était carrément le village ensemble qui s'organisait. Alors, faut pas non plus enjoliver la chose, hein, c'était aussi des très gros conflits, hein, à chaque fois, mais qui organisait le passage, on va dire, des troupeaux, des zones de garrigues incultes aux zones cultivées, selon les périodes de l'année, selon les saisons, etc. Et puis, il y a un système plus récent d'utilisation de ce fumier, qui est un système de marché, avec vente de fumier au niveau des agriculteurs. Par exemple, Clément Martin, dans son livre « La garrigue et ses hommes », cite un éleveur de Saint-Hippolyte-du-Fort, qui raconte que, qui se souvient que les gros propriétaires à Saint-Hippolyte-du-Fort de la région envoyaient chaque année des wagons entiers de fumier de moutons en direction des grands centres de Nîmes ou de Montpellier. Donc il y avait vraiment ce marché autour du fumier qui était très important. Alors, juste pour citer, en fait, justement, ce système de marché avec vente de fumier a parfois été défavorable au système autarcique, notamment. Donc, Clément Martin cite également un passage avec un exemple sur le plateau de Méjeanne-le-Clap, donc situé au nord de Lucan, dans le Gard. Il y avait dans cette région, qui s'étend vers l'est jusqu'à la commune de Goudargues, une dizaine de grands domaines, chacun étant géré par une grosse ferme ou un mas. Le Clap, Crespinou, Mas Crémat, La Civadière, Le Quiquier, Mas de Ruf, Souloumiac. Et pendant les 17, 18, 19e siècle, cet espace fonctionnait admirablement en autarcie. Mais c'est au début du 20e siècle que les propriétaires, pour faire des bénéfices, ont préféré vendre le fumier de leur immense troupeau aux agriculteurs viticoles de la vallée de la Sèze toute proche, plutôt que l'utiliser sur leur propre domaine. Et cela a entraîné en partie la ruine de ces domaines. C'est-à-dire que le système autarcique a été déstabilisé et le système de marché du fumier a pu déstabiliser ce système-là. Donc on voit l'importance, on va dire, de cette production de fumier. Et on va y revenir tout à l'heure dans la gestion des terres. C'était assez complexe. Deuxième utilisation en ordre d'importance, c'était la laine. Faut savoir qu'un mouton peut donner 2 à 3 kilos de laine. L'activité lainière est très ancienne. On a des écrits au XIIIe siècle, par exemple, Nîmes était déjà un centre de commerce important de la laine. Et il y avait tout un tas de métiers d'artisans qui étaient liés à cette production de laine. Donc on peut citer les cardeurs. Donc les cardeurs, c'est ceux qui défaisaient la laine pour en faire des fils différenciés. Les teinturiers, les drapiers, les tisserands, tous ces métiers qui étaient liés à cette production de laine. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en 1840, 700 tonnes de laine étaient récoltées dans le Gard, donc des quantités importantes. Et il s'organise petit à petit une industrie de la laine, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle. Par exemple, si vous allez à Montpellier, le pont Juvénal, que les Montpelliérains connaissent, c'était un lieu très important où la laine était cardée, justement, dégraissée, lavée à cet endroit-là. Et ensuite, elle était renvoyée dans différentes villes de la région pour dans des manufactures qui transformaient la laine. À Sommières, à la fin du XVIIIe siècle, il y avait 17 manufactures liées à la laine, avec plus de 1300 salariés. Donc vous imaginez l'ampleur à l'époque de cette économie-là. Et tout un négoce s'organisait avec une petite bourgeoisie qui est née de ce commerce-là, autour de l'artisanat et la vente des produits dérivés de la laine. Et donc, il y avait une petite bourgeoisie locale liée vraiment à la laine. Alors, sur ce sujet-là, en ce moment même, au Vigan, dans le cadre des éco-dialogues, donc les éco-dialogues de cette année au Vigan, le titre c'est « Révolution des savoir-faire ». Évolution, révolution des savoir-faire. En ce moment même, il y a une rencontre professionnelle sur le thème les fibres et textiles d'hier et aujourd'hui, autour de la soie, la laine, le lin, le champ et les fibres nouvelles. Car comme je vous disais, la laine a complètement perdu de son importance, même jusqu'à être jeté. Et on voit aujourd'hui renaître un intérêt nouveau pour ce produit-là. Et du coup, justement, c'est un sujet qui est discuté. Et demain, toujours au Vigan, donc demain samedi 14 novembre, il y a une table ronde sur la laine, un matériau d'avenir. Donc, table ronde animée par Julien Bûcher, qui est un chargé de mission la thématique de l'agropastoralisme au Parc national des Cévennes, et Marie-Thérèse Chopin, qui est coordinatrice d'Atelier Laine Européenne, qui est une association autour du textile européen de la laine. Donc, on voit renaître, et puis quelques éleveurs sont aujourd'hui en train de réfléchir comment on peut remettre, on va dire, le produit de la laine dans un marché. Et c'est intéressant de voir comme un produit très important à une époque a quasiment disparu et peut-être renaître sous différentes formes. Donc, vous voyez, la laine, un produit important de l'élevage. Faut savoir que, donc, vous rappelez, hein, il y a la brebis, le bélier, l'agneau et le mouton. Le mouton, c'est en fait un mâle castré. Et on appelait le mouton la bête à laine. Et en fait, on voit que à certaines époques, il y avait presque moitié de brebis, moitié de mouton dans les troupeaux. Donc une importance très forte de cette production de laine faite par ces mâles castrés. Donc du coup, dans le langage courant, on dit mouton encore pour l'ensemble. Mais ça démontre un peu de cette importance-là. Alors, un autre produit, il y a la peau du mouton, puisqu'on va quand même en faire du cuir. Et donc, c'est l'action du tannage, le tannage des peaux, qui a été une activité très importante dans la région. Et cette industrie, elle a été liée à trois éléments qui sont très fortement présents en Garrigue. C'est la peau des moutons. Mais c'est aussi la chaux qui est produite à partir de la roche calcaire, qui est broyée, chauffée et qui nous fait de la chaux. Et ce qu'on appelle le tan, qui est en fait un produit qui est tiré, une sorte de poudre, qui est tirée de l'écorce des chênes verts. Et donc on récupérait l'écorce des chênes verts, on la broyait et on en faisait ce qu'on appelle le tan, qui était utilisé pour tanner les peaux. Alors, ce qu'il fallait en plus de ça, et qu'on a un peu moins en Garrigue, c'est beaucoup d'eau. Et donc, c'est pour ça que toute l'activité liée au tannage de peau était concentrée près des rivières. Et le Vidourle, notre Vidourle, là, qui passe chez nous, c'est la rivière des tanneurs. C'est vraiment la rivière des tanneurs. Alors, quelques chiffres encore. Désolé, j'en ai récupéré plein, alors j'en profite pour vous les donner. En 1813, il y avait 36 tanneries à Saint-Hippolyte-du-Fort, 2 à Quissac et 20 à Sommières. Donc un nombre de tanneries très très important tout au long du Vidourle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on fait du cuir à partir de la peau. C'est assez complexe, assez long. Il y a toute une préparation, donc d'abord de lavage de la peau, hein, toute une préparation ensuite avec de la chaux qui va permettre d'enlever tous les résidus de viande, tous les poils, etc. Donc tout ça, c'est la phase de préparation où il faut énormément d'eau à ce moment-là. C'est pour ça que, par exemple, à Sommières, hein, la ville s'est construite à un endroit qu'on aurait du mal à imaginer, hein, puisque c'est quand même sous le niveau du Vidourle, sous le pont. C'était les tanneurs qui allaient à cet endroit-là, parce qu'ils avaient besoin d'énormément d'eau. Et ensuite, il y a la phase de tannage à proprement parler, où en fait, la peau qui a été déjà préparée est mise dans des sortes de fosses et on va la recouvrir du fameux tan, donc qui est issu du bois de chêne vert. Et là, il en faut des quantités très importantes. Et on va laisser macérer ça pendant plusieurs mois. Et ensuite, c'est là que quand on le récupère, on a du cuir. Et donc, après, tout le commerce, notamment lié au commerce textile, enfin, tout ce qui est lié aux habits, mais aussi à d'autres usages, hein, tout un tas d'usages du cuir qui se faisaient dans les villes proches du coin. Donc ça, c'est un autre usage important. Vient ensuite la viande en tant que telle, qui était effectivement utilisée, mais presque comme un usage secondaire, quoi. D'abord, c'était la viande de mouton. On mangeait plutôt la viande de mouton, donc des moutons de 2-3 ans. Donc, vous vous rappelez, hein, le mouton, c'est des pédiers castrés qui étaient d'abord utilisés pour la laine. Et puis, au bout d'un moment, on les tuait et on les mangeait. Faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans les boucheries avec l'appellation mouton, n'est pas vraiment du mouton, mais plutôt des vieilles brebis. Du coup, on se demande si justement une nouvelle commercialisation du mouton tel qu'il... Pourquoi pas ? Il faudrait réhabituer notre palais peut-être à ça. Je connais pas très bien le détail, mais c'est des questions qui sont... Le fait de manger de l'agneau est venu plus tard finalement. C'est les bouchers qui ont poussé à développer la viande d'agneau avec une demande notamment dans les villes quand il y a eu un exode rural important et des agneaux très jeunes, donc des agneaux de lait on appelle, donc de quelques mois, 2 mois des fois à peine, qui ont commencé à être commercialisés. Mais ça c'est beaucoup plus récent, quoi, fin 19e, début 20e, où on a eu cette habitude de manger de l'agneau. Et enfin, le lait. Finalement, ici, on n'est pas une grosse région à production de lait de brebis. C'était utilisé, mais à usage familial, quoi. Lait de brebis et quelques fromages. Mais on le verra dans d'autres émissions, les races particulières à nos régions ne sont pas des races très productives en lait. Et puis, par contre, tout proche, hein, si on monte sur le Causse du Larzac, hein, là, on a des brebis, vraiment des brebis productrices de lait, donc tirées par notamment le Roquefort, hein, qui est un très gros producteur. Donc, vous voyez, le mouton, on l'utilisait pour plein de choses, pas toujours ce qu'on imagine. Alors, on s'écoute une petite musique, et puis on reprendra ce sujet-là.
Thank you.
Alors c'était Bratch sur les ondes de Radio Escapade. On revient sur la question des troupeaux et plus particulièrement sur un sujet dont on a un peu évoqué tout à l'heure, c'est le lien entre les cultures et les troupeaux. Il y a un lien assez ambigu en fait là-dessus, c'est-à-dire que à la fois le troupeau, ben, il enrichit les terres par le fumier, le migou qu'il va apporter en passant sur les terres cultivées, mais en même temps, il peut aussi ben, manger les végétaux cultivés et du coup être un problème, on va dire, pour les agriculteurs. Et cette question du lien entre cultivateurs et cultivateurs strictement sédentaires et bergers qui font passer leurs troupeaux est complexe et a été l'objet de nombreux conflits mais aussi d'essais d'organisation depuis très longtemps. Donc je vais essayer de remonter à ce qu'on connaît au niveau des écrits, notamment dès le Moyen-Âge, où on a des organisations qui vont se mettre en place, qui vont être plus liés aux usages qu'à la notion de propriété. C'est la notion de droit d'usage qui va avoir une importance capitale. Dans les garrigues, on va avoir déjà la gestion des espaces de garrigues par le troupeau qui va se faire. Alors, c'était des propriétés très grandes de seigneurs, mais une organisation qui va se faire au niveau de la communauté. La communauté qui va gérer des espaces de communs, ce qu'on appelle des communs. Des communs, c'est des espaces où plusieurs personnes vont pouvoir l'utiliser. Ces communs vont souvent amener à des espaces publics, on va dire, par la suite. Et la gestion du nombre de troupeaux là-dessus était assez complexe. Et il y avait toujours le seigneur ou des gros propriétaires qui voulaient se sortir de cette gestion commune en organisant ce qu'on appelle des deux voies. C'est des espaces qui étaient réservés à certains troupeaux. Le troupeau du seigneur, etc. Donc si vous voyez des lieux dits le devoir, par exemple, c'est cet espace qui était réservé à un troupeau d'un gros propriétaire ou d'un noble. Ensuite, les autres géraient ensemble ces espaces de commun. Mais ensuite, il y avait comment on fait pour faire circuler les troupeaux sur des zones cultivées cette fois. Et là, il y a un droit d'usage ancien qu'on appelle la veine pâture. Veine pâture ou compascuité, c'est un autre terme qui était utilisé par rapport à ce côté-là. Alors qu'est-ce que c'est que la veine pâture ? C'est un droit d'usage qui autorise les troupeaux à venir sur les cultures une fois que la production est finie. Donc c'est-à-dire que une fois qu'on a, après l'enlèvement des récoltes, les champs sont vides. Et c'est pour ça vide, c'est-à-dire vin, on appelait ça, et ils deviennent ainsi des pâturages d'un genre particulier qu'on appelle des veines pâtures. Et donc ça, c'était très important pour enrichir les sols. Surtout qu'on était souvent dans des cycles biannuels, par exemple, où une année il y avait une culture, l'autre année c'était une jachère, et là la jachère était utilisée par le troupeau. Et ça, c'était très important pour l'agriculteur, mais aussi pour le berger qui pouvait compléter, on va dire, ceux qui trouvaient pas spécialement dans les zones non cultivées, les zones de garrigues plus arides. Alors ça s'est fait sur des zones de céréales, mais aussi plus tardivement sur la vigne. Donc c'est que après les vendanges, les vignes étaient ouvertes aux moutons. Ceci jusqu'au 22 février. Alors c'est assez précis, jusqu'au 22 février. Ce saltus vignoble, comme on appelle, prend une place très importante dans les bassins des garrigues, surtout à partir du 19e siècle, moment où se met en place la monoculture intensive de la vigne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? C'est que ben la veine pâture va petit à petit être critiqué et subir de nombreuses attaques, en fait, à partir de l'après-révolution et à partir de la montée, on va dire, de la notion de droit de propriété qui va prendre le pas sur le droit d'usage. Alors, c'est-à-dire que avant, ce droit d'usage était très important, mais petit à petit, le droit de propriété va être plus important que le droit d'usage. On parle un peu comme lancement de cette attaque-là. Napoléon, qui en 1808 lance à travers la France le projet d'un code rural. Et dans ce code rural, il y a cette idée très forte. C'est le premier article du code rural qui est « Personne n'a le droit de faire paître ses bestiaux sur le terrain d'autrui sans la permission expresse du propriétaire ». Et donc on voit que petit à petit, le droit qui était accordé aux éleveurs va perdre de l'importance par rapport au droit du propriétaire. Et donc petit à petit cet usage va régresser. Mais ça va pas se faire tout seul, c'est-à-dire que ça va quand même être remis en cause plusieurs fois. Par exemple, là je lis un peu les notes. Le 20 juillet 1838, le ministre de l'Intérieur demande au préfet du Gard s'il faut investir les préfets du droit de supprimer tout ou partie l'exercice de la vaine pâture, même sur des terrains non cultivés. Le 20 août de la même année, la réponse du préfet du Gard éclaire sans ambiguïté cette pratique dans ce département. La vaine pâture est la ressource du petit propriétaire et du pauvre. C'est avec le produit qu'ils obtiennent de leurs animaux qu'ils peuvent acquitter leur impôt et payer le fermage. Les mœurs sont faites à cette coutume plus précieuse sans comparaison à ceux qui en profitent, qu'elle ne paraît onéreuse à ceux qui en éprouvent le préjudice. Si l'on, vous comprenez la phrase, hein, c'est plus intéressant pour celui qui profite de cette coutume que ce qu'elle est onéreuse pour ceux qui en éprouvent le préjudice. Si on investit le préfet, l'initiative viendrait des conseils municipaux, le corps étant composé pour la plupart des principaux propriétaires, par conséquent intéressés à la suppression de cette vaine pâture. Il en résulterait un soulèvement et des collisions. Ma pensée est le maintien de l'état des choses. C'est-à-dire que le préfet du Gard dit « Attention, si on enlève la vaine pâture, il risque d'y avoir même un soulèvement social, c'est-à-dire entre une lutte des classes, entre les petits propriétaires et les usagers et les gros propriétaires. Néanmoins, petit à petit, il va y avoir des attaques de plus en plus fortes faites sur cette activité et elle va petit à petit disparaître à la fois parce que les troupeaux vont petit à petit régresser et parce que du coup le poids du pastoralisme va être moins important et le poids des propriétaires de plus en plus important. Alors je trouve que c'est important de noter ça parce que aujourd'hui où on s'intéresse à un retour du pastoralisme en garrigue, on s'affronte vraiment à cette question-là. C'est-à-dire le conflit entre le droit d'usage et le droit de propriété est quelque chose de très complexe, notamment sur le pastoralisme où on est sur du parcours, donc sur de nombreuses terres différentes. Et je pense qu'au-delà de l'aspect contractualisation, etc., c'est aussi dans les têtes, c'est-à-dire comment on remet une importance à l'usage dans nos garrigues. Alors ça, je pense que ça fera l'objet de pas mal de... Enfin, on y reviendra dans d'autres émissions, parce que c'est... Et on voit là comment, finalement, un usage a petit à petit disparu par rapport à un droit de propriété, par rapport à une réorganisation importante qui avait été effectuée après la Révolution et qui va complètement changer l'organisation, on va dire, de nos garrigues. Mais bon, tout ça, on y reviendra plus largement dans d'autres émissions et on va se laisser pour aujourd'hui et n'hésitez pas à rejoindre les éco-dialogues qui ont lieu en ce moment même au Vigan.